franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, le chimiste Jean-Pierre Sauvage raconte l'aventure scientifique qui l'a conduit à Stockholm recevoir son prix Nobel en décembre 2016.
Donc mon labo travaillait à l'époque dans le domaine de l'énergie solaire,
ouais.
C'est-à-dire d'essayer de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et on utilisait des molécules bien particulières, très colorées. Et à un moment, disons, on est tombé sur une molécule que nous avions fabriquée qui semblait être le précurseur parfait pour faire deux anneaux entrelacés. Alors, je sais qu'on ne peut pas me voir, mais voilà, deux anneaux entrelacés, comme ceci. Et il a fallu prendre une décision. Est-ce qu'on quitte le domaine de recherche qu'on connaissait avant pour sauter complètement dans l'aventure et l'inconnu ou pas? Et grâce à l'arrivée de Christiane Dietrich-Buchecker et à l'expertise qu'elle a portée dans notre équipe, on a sauté. On s'est lancé dans un domaine complètement nouveau qu'il fallait totalement découvrir.
Mmh.
Et ça a marché très très vite grâce à elle et à d'autres personnes.
Alors c'était quoi finalement le moment où vous avez senti que vous aviez découvert quelque chose? Il y a eu une intuition quand même,
il y a eu quelque chose de très fort de votre part
en particulier, je crois.
Oui, on peut pas nier qu'il y ait eu une intuition, bien sûr. Mais ensuite, il fallait donner les moyens à cette intuition d'être matérialisée par un travail expérimental difficile et de haut niveau. Donc à partir du moment où on a eu des anneaux entrelacés, on a compris aussi qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait commencer à faire bouger ces anneaux, les uns dans les autres, ou à utiliser des anneaux enfilés par un axe, déplacer cet anneau le long de l'axe, d'un endroit à un autre endroit, etc. Donc ça ouvrait tout un ensemble de perspectives.
Ouais.
Disons, c'était une espèce de pari gratuit, fabriquer des anneaux entrelacés.
On ne savait même pas à quoi ça pourrait servir plus tard.
On ne savait pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Mais disons, la période n'était pas celle d'aujourd'hui. Et on avait moins besoin de présenter des applications dans ces projets, dans les demandes de programmes, les demandes de subventions. On pouvait se permettre à l'époque de dire, voilà, on peut envisager des applications dans tel ou tel domaine à relativement long terme, mais simplement d'un point de vue purement fondamental, on sait que c'est original.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus faire cette même découverte et vous ne pourriez plus avoir un prix Nobel dans ce domaine-là?
C'est une question difficile, ça. Ça serait certainement beaucoup plus difficile de convaincre les instances qui nous financent de démarrer des projets aussi farfelus.
Mardi, les professionnels de la santé sont-ils bien formés aux tests de dépistage prénatal de la trisomie 21 avec la sociologue Karine Vassy.
Ils sont très peu formés au handicap mental et quand ils doivent présenter ces tests de dépistage prénatal de la trisomie 21, ils sont pas forcément formés. Certains peuvent pas très bien connaître même les aspects techniques. Et sur les aspects humains, là, ils n'ont aucune formation. Et c'est pour ça qu'on est allé voir avec des collègues sociologues du Centre National de la Recherche Scientifique comment ça se passait dans d'autres pays, en Angleterre, aux Pays-Bas.
Les médecins sont mieux formés sur la question?
Eh bien, il peut y avoir des communications, bien sûr, de la formation à la communication avec les femmes enceintes. Par exemple, la communication non directive. Comment fait-on pour présenter un test médical sans influencer l'opinion de la personne qui est en face, pour respecter ses opinions, ses attitudes, l'amener à élaborer ses choix? Voilà, donc on néglige un peu les aspects humains, les aspects communication. On fait rembourser par la sécurité sociale les tests. Donc c'est tout l'aspect technique, la réalisation des tests dans les laboratoires. Donc tout ça c'est bien financé par l'argent public. Et puis on néglige les aspects humains. On néglige aussi par exemple des choses comme la durée de la consultation. Ça, notre comparaison internationale l'a montré très clairement. En France, la première consultation d'une femme enceinte avec un professionnel de la santé, ça dure 30 minutes. 30 minutes alors qu'il y a énormément de choses à faire la première fois qu'elle vient pour un suivi de grossesse. des questions sur ses antécédents de santé, ceux du futur papa, il y a un examen physique, il y a tout un dossier à remplir, donc tout ça en 30 minutes, ben c'est comment voulez-vous qu'on ait encore du temps pour parler du dépistage prénatal et calmement et laisser aux gens le temps de réfléchir. En Angleterre et aux Pays-Bas, cette première consultation dure une heure.
Mercredi, comment le cerveau détecte nos erreurs avec le neurobiologiste Emmanuel Prosic.
La recherche a commencé dans le domaine au début des années 90, où on a commencé à identifier par l'électroencéphalographie chez l'homme en particulier, et d'autres expériences électrophysiologie chez l'animal, des signaux qui émergeaient du cerveau au moment où les individus se rendaient compte qu'ils étaient en train de produire une réponse erronée ou lorsqu'ils n'obtenaient pas ce qui était attendu après leur action, en fait. Ce qu'on a appelé, on appelle ça généralement une erreur ou une absence de récompense. Et donc ce signal qui est une onde négative qu'on enregistre toujours au même endroit, qui est très très facilement enregistrable dans tous les labos.
C'est l'ERN
du monde. C'est ce qu'on appelle...
C'est le nom de ce signal.
En anglais, c'est Error Related Negativity. Qui est lié, alors c'est vraiment très très rapide, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des tâches en laboratoire où on demande au sujet de répondre très rapidement, choisir entre deux options, ces sujets vont aller vite, et plus ils vont aller vite, plus ils vont avoir tendance à produire des réponses erronées. Et au moment où les sujets produisent, c'est-à-dire déclenchent l'action erronée, le cerveau, dans les 80 millisecondes, détecte cette erreur, avant même que l'action soit finalisée.
Ah oui.
Donc le cerveau anticipe l'erreur. Donc il est parce qu'il prédit en fait, et le cerveau détecte que le résultat de l'action va pas être adéquat.
Donc il y a une détection d'erreur ultra rapide.
Ouais, c'est très très rapide. Alors ça c'est une classe de ce qu'on appelle de surveillance des performances, d'évaluation des performances qu'on lie à la production de l'action elle-même. Et il y a une autre classe qui est plus liée là à l'évaluation de l'échec ou détection de l'échec. Donc le cerveau apprend à reconnaître des indices qui viennent de l'environnement et qui indiquent que quelque chose ne va pas. Et alors on prend l'exemple par exemple dans l'éducation, les notes que l'instituteur donne à l'élève sont des indices de la performance qui a été réalisée. Et donc ça aussi fait intervenir un système qui évalue et qui détecte. Alors là c'est une information qui vient de l'environnement. Signal visuel, et le cerveau produit 200 ou 250 millisecondes après la vision de ce stimulus-là, une onde négative aussi, qui vient à peu près des mêmes régions, pas exactement les mêmes, et qui semble contribuer à l'évaluation de l'échec.
Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit l'anticipation et la prédiction dont est capable le cerveau. Donc le cerveau peut lire dans le futur quasiment, c'est ça ?
Ouais. Alors en fait, maintenant on se rend compte que le cerveau, il fait que ça. C'est-à-dire le principe de base de fonctionnement du cerveau, c'est de prédire tout. C'est comme ça qu'on comprend le monde, c'est comme ça qu'on comprend ce que les autres individus font. Donc oui, donc le fait de prédire permet au cerveau d'être un tout petit peu toujours en avant sur ce qui va se passer et donc de détecter très rapidement quand quelque chose ne va pas.
Jeudi, quelle vie sur les planètes extrasolaires avec Alain Lecavelier et Philippe Hénarejos.
Il faut voir que quand on évoque ici la vie sur les planètes extrasolaires, il ne s'agit en aucun cas de vie sous la forme de petits bonhommes avec deux yeux, deux bras, deux jambes.
Oui.
C'est quelque chose qui sera même très certainement très différent de la vie sous la forme sous laquelle nous la connaissons sur Terre. Et c'est peut-être même la grande difficulté pour nous, quand nous cherchons les signatures de la vie sur les autres planètes. Finalement, ce sera des choses qui seront très différentes de ce que nous avons ici. Qu'est-ce que peut être une signature de ce qui est différent ? Et c'est là que, comme le disait Franck Celsis tout à l'heure, il faut garder l'esprit ouvert. C'est extrêmement important.
Tout est possible.
Tout est possible.
Vous parliez de diversité tout à l'heure.
Oui.
Là aussi, on pourra en trouver beaucoup.
Exactement. Donc la vie, il ne faut absolument pas s'imaginer deux bras, deux jambes et deux yeux. Et un dernier point, sur cette question de communication, ce serait intéressant de lire Le Nuage Noir, qui a été écrit par Fred Hoyle, qui est un excellent livre de science-fiction, écrit par un astrophysicien, peut-être un des rares, écrit par un astrophysicien, qui parle de cette question du contact. Et ça permet de réaliser que finalement, d'une certaine façon, de détecter l'intelligence, ça peut être plus facile que détecter la vie. Parce que l'intelligence a des signatures qui sont extrêmement fortes. Par exemple, si on en reçoit des signaux des nombres premiers jusqu'à 10 000, on pourra dire là, il y a quelque chose. C'est évidemment la signature de quelque chose d'intelligent. Et c'est peut-être plus facile à détecter que des signatures de la vie. Donc on ne sait pas ce qu'elle est.
Oui, alors c'est une question qui est quand même très futuriste, mais malgré tout, sans bouger d'ici, ça a été envisagé qu'il y ait un contact. C'est très hypothétique, mais alors là, ça n'appartiendrait pas ni à la communauté scientifique, ni aux découvreurs. Il y a un protocole, je crois, qui est prévu, et qui déplace la gestion de cet éventuel contact à l'ONU.
Ouais. C'est l'ONU qui serait chargée,
qui serait chargée
de faire l'annonce.
De savoir si, déjà, il faut parler, hein, ouais. si on nous contacte, s'il faut répondre, ouais. Sinon on doit appeler, et puis qu'est-ce qu'on doit dire, surtout. Ouais. Au nom de qui ?
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr, à la page de La Tête au Carré.